Continuer, n'est-ce pas? Se laisser porter.
Alléluia,
et emporter
Seigneur.
Par ce
merci,
courant,
Jésus.
Ce fleuve
merci.
D'amour, n'est-ce pas?
Merci, Seigneur.
Qui nous mène vers la cité
merci,
céleste.
Seigneur. Alléluia.
Un jour, le Seigneur viendra.
C'est vrai.
Et nous emportera.
Alléluia.
Jusque là vers la
Alléluia.
Cité céleste.
Alléluia. Alléluia.
Où nos yeux verront
oui,
le roi des rois.
Oui, Seigneur.
Nos yeux verront
oh.
Enfin. La
oui.
cité céleste,
oh,
là où il n'y a plus de larmes, là où il n'y a
oh,
plus de deuil,
quel repos, Seigneur.
Là où il n'y aura plus de mort,
quel
plus
repos.
De douleur,
quel repos.
Enfin,
Jésus,
la vie, enfin la paix,
Amen.
Enfin l'éternité
Amen.
De félicité,
Amen.
De gloire et
Amen.
De repos éternel.
Amen.
Bientôt,
Amen.
Bientôt. Nos merci. Yeux verront le roi dans toute sa beauté.
Amen.
Soyons fidèles
Amen.
Jusqu'à la fin.
Mm-hmm.
Et le Seigneur nous donnera la couronne de vie.
Oui, c'est vrai.
Alléluia.
C'est vrai, Seigneur.
Que son nom
oui,
soit
Jésus,
béni.
Merci.
Il est merveilleux.
Merci, Seigneur.
À son nom soit toute la gloire.
Merci, Jésus.
Seigneur Jésus, merci de ce qu'il y a encore une place auprès de toi. Ton cœur est toujours grand ouvert pour nous recevoir, qui que nous soyons. Si nous venons, Seigneur, dans l'humilité et la repentance, réalisant que sans toi nous ne pouvons rien faire et que toi seul peux tout transformer, changer dans nos vies. Seigneur, merci savoir que nous pouvons toujours venir et revenir à toi. Alléluia. Merci pour ces instants bénis, Seigneur, où ta présence nous renouvelle, nous fortifie. Merci pour ton amour qui veut encore toucher nos cœurs, pour ta vérité aussi qui nous éclaire, car dans ce monde de ténèbres, il n'y a qu'un livre, la Bible qui est la parole de Dieu, que tu nous as laissé pour nous éclairer et pour nous montrer le chemin que nous devons suivre. Nous voulons suivre ce chemin, le seul chemin, c'est toi-même. Tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Seigneur, c'est toi qui as dit cela. Et nous croyons en toi, Jésus, le seul chemin. Et nous savons que par toi, nous pouvons expérimenter la réconciliation avec Dieu, la paix avec Dieu. Oh, merci, Seigneur. Tu es là encore maintenant. Tu veux aussi nous parler à nous qui t'avons accepté comme notre sauveur personnel. Tu es notre Rédempteur, Jésus. Nous sommes à toi. Nous t'avons confessé comme notre Sauveur. Et nous voulons te confesser encore comme notre Sauveur devant les hommes jusqu'à la fin du monde. Sans aucune crainte, même dans l'épreuve et la souffrance, nous voulons te rester fidèles. Garde-nous fidèles jusqu'à la fin. Car tu reviens bientôt. Ouvre-nous les Écritures, Seigneur, et enseigne-nous tes voies, et trouve en nous des cœurs obéissants, pour que tu puisses agir en nous et transformer nos vies pour ta gloire. Amen. Gloire au Seigneur. La présence du Seigneur est là. Et il veut toucher nos cœurs. Il nous aime et veut nous prendre dans ses bras. Il veut nous dire qu'il nous aime encore. Il n'a pas dit son dernier mot. Il veut encore agir dans ta vie. Si tu reviens à lui de tout ton cœur, il peut tout recommencer. Avec toi, ne crains pas, reviens dans l'humilité, dans les larmes, dans la repentance, reviens à ton Père, enfant égaré, dis-lui ta misère, dis-lui j'ai péché, toujours il pardonne à celui qui se repent, viens pour toi l'heure sonne. Viens, il t'attend. Alléluia. Viens à ton Sauveur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il est là et il veut encore réchauffer nos cœurs par sa parole. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Il a dit lui-même, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais... prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous suivons un Sauveur, un Maître et un Dieu invincible. Et si nous le suivons, nous marcherons de victoire en victoire. Nous pouvons tomber. La Bible dit que le juste tombe 7 fois, mais chaque fois il se relève. Chaque fois il se relève parce qu'il veut plaire à son Dieu. Il veut le glorifier. Il ne se laisse pas arrêter, que rien ne t'arrête. Relève-toi, pèlerin, prends courage. Le ciel bientôt s'ouvrira et le Maître vient nous chercher pour nous introduire dans la cité céleste. Il revient, sois prêt, sois courageux. Dans ces temps de la fin, il nous a avertis. soyons fidèles. Et le message que je voudrais apporter est celui-ci. Comment tenir ferme en des temps d'apostasie? Car nous vivons les temps de la fin. Et nous vivons des temps d'apostasie. Qu'est-ce que l'apostasie? C'est l'abandon des vérités fondamentales de la parole de Dieu. Et cela pas seulement dans le monde, mais surtout dans l'Église. L'apostasie est en rapport avec l'Église. Et nous voyons cela dans beaucoup d'Églises. Certains veulent nous dire qu'on vit le plus grand des réveils. Mais la Bible appelle ce réveil-là l'apostasie. Pourquoi? Parce que si vous considérez le réveil que certains proclament, c'est un réveil sans la parole de Dieu. La parole de Dieu est mise de côté et on vit des mouvements soi-disant de l'esprit que la parole de Dieu ne peut pas confirmer. Est-ce cela un vrai réveil? La Bible appelle cela l'apostasie. Même s'il y a de grandes manifestations, même si le plus grand des apôtres ou des prophètes appelle cela un réveil, si ce mouvement n'est pas basé sur la parole de Dieu, ce mouvement ne vient pas du Saint-Esprit. Amen. Car le Saint-Esprit agit toujours en harmonie avec la Bible. Amen. Et la Bible ne prophétise pas un grand réveil mondial. La Bible prophétise une grande apostasie mondiale. Bien sûr, il y aura toujours des âmes sauvées. Le Seigneur agira dans le monde entier à la prédication fidèle de l'Évangile. Mais prophétiser comme certains le font, certains prophètes soi-disant, qui prophétisent le plus grand réveil à la fin des temps, et que ce que les apôtres, Pierre, Jacques, Jean, et tout cela ont expérimenté, n'est rien du tout à côté du grand réveil mondial de la fin des temps, c'est un mensonge et une illusion. La Bible prophétise plutôt une grande apostasie. Et vous savez, ceux qui croient à ce grand réveil, vous savez dans quel piège ils tombent, et c'est ce que nous voyons actuellement. Comme ils attendent absolument un grand réveil, qu'est-ce qui se passe? La chose qui se passe est celle-ci. C'est que la moindre chose qui se passe à gauche et à droite, dans tel pays, on voit des gens qui il se passe quelque chose, des gens qui roulent par terre, des gens qui crient, des gens qui font n'importe quoi, des bruits d'animaux, et on dit, mais puisqu'on attend vraiment quelque chose qui se passe, on dit, voilà, c'est le Saint-Esprit qui agit. Comme on veut à tout prix que quelque chose se passe, pour n'importe quoi et pour n'importe qui, on dit, c'est l'action du Saint-Esprit. Voyez-vous le piège dans lequel on tombe? C'est un piège terrible. Et on attribue à Dieu ce qui vient du diable. Mes amis, il nous faut tenir ferme dans ces temps de la fin. Et c'est pourquoi la Bible prophétise une grande apostasie. Quand dans ces milieux, soi-disant, où il y a de grandes manifestations de l'esprit, dans certains mouvements, on dit que c'est le plus grand réveil des derniers temps. Plus grand réveil. Mais quand vous les entendez parler, mais on vous dit, ici on ne parle pas de doctrine. On ne veut pas parler de doctrine. Et pourtant ils parlent de réveil. Est-ce possible? Est-ce possible? S'il y a vraiment une action du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit nous ramène toujours sur le terrain des Écritures. Amen. Le Saint-Esprit ne nous fait jamais ignorer les Écritures, mépriser les Écritures, mettre de côté les Écritures. Ce n'est jamais le Saint-Esprit qui fait cela. Ce sont les mauvais esprits. Ce sont des doctrines de démons qui ont toujours une belle apparence religieuse. Mais ce sont des doctrines de démons qui les éloignent de la parole de Dieu. Une authentique action du Saint-Esprit nous ramènera toujours à la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu, n'est-ce pas vrai? Et l'Esprit de Dieu est un esprit de vérité. Et il nous ramène toujours à la vérité. Il nous fait aimer la vérité. Il nous fait respecter la vérité. Il nous fait défendre la vérité. C'est pourquoi quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est rempli de la vérité. Donc nous vivons des temps particuliers, mes amis, et il faut que les chrétiens soit prêt, il nous faut tenir ferme. Comment tenir ferme dans ces temps d'apostasie? Et j'aimerais brièvement apporter un message en prenant l'exemple d'un homme dans l'Ancien Testament qui a été un instrument de Dieu pour que Israël revienne dans les voies de l'Éternel. En des temps d'apostasie, Dieu a suscité un homme, et cet homme, c'était Gédéon. Nous connaissons tous l'histoire de Gédéon, n'est-ce pas vrai? Dans le livre des Juges, il y a une belle histoire avec Gédéon. D'ailleurs, il est aussi mentionné dans Hébreux 11. Il fait partie des héros de la foi. Et que dirais-je? Que dirais-je de Gédéon et tout cela, Samson et tous les autres? Donc, Gédéon est un héros de la foi que Dieu a utilisé en son temps. Et pourquoi Dieu l'a-t-il utilisé? Il y avait en lui des qualités que nous devons avoir aussi en nous-mêmes. En ces temps de troubles, comme Gédéon vivait une période où Israël vivait vraiment dans un temps d'apostasie. Les temps étaient sérieux, il nous est dit, extrêmement difficiles. Les Israélites ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et les livrent entre les mains de Madian pendant 7 ans. Israël servait les Baals, ils abandonnèrent l'Éternel et ils allèrent auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent, il est dit, devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Voilà les circonstances dans lesquelles Gédéon vivait. Et nous allons voir dans Juges, j'aimerais juste lire quelques versets et ensuite nous verrons quelques vérités importantes concernant Gédéon. Juges chapitre 6, nous lisons au verset 11, « Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe de l'Ophira qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils dirent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? » Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit d'entre la maison de mon père. L'Éternel lui dit, « Moi, je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Alléluia ! N'est-ce pas là un message extraordinaire ? Nous allons donc voir pourquoi maintenant l'Éternel Dieu a utilisé Gédéon. Il y a plusieurs vérités que je vais nommer sans trop aller dans les détails, mais important. Ne vous rappelez pas, rappelez-vous cela ? Comment tenir ferme en des temps d'apostasie ? La première vérité que nous notons du temps de Gédéon est celle-ci. La première vérité, c'est les mauvaises conceptions du service de Dieu. Israël avait une mauvaise conception du service de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, il y a là un point important. Le principal problème d'Israël était que les Israélites servaient Dieu non par amour ou dans un esprit de reconnaissance, mais sur des motifs égoïstes et ambitieux. Ils cherchaient Dieu seulement en période de crise et quand ils en avaient besoin. N'est-ce pas cela? Voilà exactement la situation d'Israël. Ils cherchaient Dieu quand ça allait mal. On voit très bien qu'ils ne servaient pas l'Éternel Dieu par amour. C'était un devoir, c'était une obligation, c'était quand tout allait mal. Il n'y avait pas ce désir de servir Dieu par amour. C'était quand il se sentait obligé, quand tout allait mal. Aujourd'hui encore, mes amis, combien de chrétiens servent le Seigneur de cette manière? C'est quand tout va mal qu'ils viennent au Seigneur. Il faut qu'ils aient des catastrophes pour qu'ils reviennent à Dieu. Et ils servent Dieu par contrainte, par habitude. Ah, il faut aller à la réunion. Ah, il faut louer le Seigneur. Oh, vous vous rendez compte? On a loué le Seigneur pendant une heure. Mais vous êtes des fanatiques. Mais il resterait 10 heures à voir un match de football. Il resterait 10 heures à cela. Ils applaudiraient. Mais une heure pour louer le Seigneur, ça c'est de trop. Ah non, il ne faut pas exagérer. Mais dans le monde, pour suivre sa passion, pour aller à la pêche, on prend tout le dimanche. 10 heures et 10 heures. Et ce n'est jamais de trop. Mais pour le Seigneur, c'est les restes. C'est quand tout va mal. Quand tout se dresse sur notre chemin. Voilà comment Israël servait l'Éternel. Et il en est de même pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Quand tout va bien, vous ne les voyez jamais à l'église. Jamais. C'est quand tout va mal. Hein, vous les voyez rentrer. Vous dites, tiens, quelque chose qui ne va pas. Le voilà. Ou la voilà. Vous les voyez seulement quand tout va mal. Quand tout va mal. Priez pour moi. Et vous savez, ils savent bien faire pour demander la prière. Ah, c'est des vrais comédiens. Ah, pour ça, je vous assure, les larmes de crocodile, ça coule vite. Pasteur, pasteur, s'il vous plaît, pasteur. Vous priez. Dieu les bénit. Et pendant 6 mois, vous ne les voyez plus. Et après, ils se plaignent. Dieu m'a abandonné. Ils se plaignent. Je ne sens plus la présence de Dieu. Voilà comment certains servent le Seigneur. C'est la première vérité du temps de Gédéon, mes amis. Comment sers-tu le Seigneur? Est-ce que tu le sers par amour ou par intérêt? Est-ce que tu es là parce que tu as besoin de lui ou est-ce que tu es là parce que tu l'aimes? C'est toute la différence, n'est-ce pas vrai? Parce que si tu es là uniquement parce que tu as besoin de lui, même si Dieu te bénit, on ne te reverra pas pendant 1 an. Il t'a béni, ça te suffit. Mais tu ne viens pas pour lui. Beaucoup de chrétiens cherchent davantage les bénédictions de Dieu que Dieu lui-même. Et voilà pourquoi on n'est pas satisfait. Même s'il y a une bénédiction momentanée, passagère, « Oh merci Seigneur pour ce que tu as fait », mais les bénédictions ne rempliront jamais pleinement ton cœur. C'est de Dieu dont tu as besoin. C'est ton sauveur. Et tu dois le servir par amour et non par intérêt. Voilà, tu tiens la ferme si tu es dans cet esprit-là, mon frère, ma sœur. Est-ce que tu es là parce que tu as besoin de lui? Parce que ça ne va pas? Ou est-ce que tu es d'abord là parce que tu l'aimes? Seigneur, je suis là pour toi. Et vous savez, quand un chrétien commence à dire, « Seigneur, même si tu ne me bénis pas, tu me suffis pleinement. Tu es ma bénédiction. C'est toi que je veux. » Ça, c'est un chrétien qui tiendra ferme. Tandis que l'autre qui est là, « Seigneur, bénis-moi. » Mais dans le fond du cœur, si tu ne me bénis pas ce soir, tu ne me verras plus pendant 1 mois au moins. 1 an à l'église, ce sera terminé. Fini. Dans quel esprit est-ce que tu sers ton Dieu comme Israël servait l'Éternel? Est-ce que Dieu pour toi est comme un parapluie? Quand tout va mal, on va chercher le parapluie au coin du mur. Seigneur, Seigneur, quand l'orage, la pluie a cessé, on prend le parapluie. Au revoir, Seigneur, reste là-bas dans un coin. Seigneur, reste là-bas. Quand j'aurai besoin de toi, j'irai te chercher. Mais la pluie maintenant, ça va cesser, le soleil est là. Je t'aime, Seigneur, mais de loin. Ah oui, tu l'aimes, le Seigneur, de loin. Il y en a un qui l'a aimé de loin, c'est Pierre aussi. Il le suivait de loin. Mais il a renié son maître. Mes amis, comment sers-tu le Seigneur? Comme Israël Il fallait toujours que Dieu envoie un prophète, n'est-ce pas vrai? Toujours. Parce qu'il s'attachait. Mes amis, écoutez-moi bien. Si votre cœur n'est pas attaché pleinement au Seigneur, s'il ne remplit pas pleinement votre vie, votre cœur ne peut pas rester vide. Qu'est-ce qu'il faisait Israël? Ils allaient servir d'autres dieux. Ils se prostituèrent avec les dieux de Baal. Les dieux païens. Eux qui connaissaient l'Éternel. Un Israélite qui se courbe devant un dieu païen. Quel affront, quel blasphème. C'est pourquoi il envoyait des prophètes. Que faites-vous là? Vous êtes le peuple de Dieu. Et c'est comme cela que vous vivez. Ils étaient tellement dans la misère. Et Dieu permettait cette misère pour les briser. Mais ils revenaient. Mais c'était d'une manière superficielle. Et quand l'orage avait passé, ils recommençaient. N'est-ce pas terrible? Mon ami, est-ce ta vie chrétienne? Est-ce que quand tout va mal seulement, tu viens à Dieu? Et quand tout va bien, il n'y a plus personne? Aujourd'hui il fait beau, c'est pas le moment d'aller à l'église. Là aujourd'hui tu ne me verras plus, c'est terminé. Comment sers-tu le Seigneur? Si le Seigneur ne remplit pas ton cœur, tu dois remplir ton cœur avec d'autres idoles qui te détruiront un jour. Car tu ne peux pas servir Dieu et maman. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils peuvent servir deux maîtres à la fois. Ah, il y a des chrétiens, oui, oui. Ah, mes frères, mais moi j'aime le Seigneur. Mais qu'est-ce que vous prenez pour un païen? Mais moi j'aime le Seigneur. Mais à côté de cela, on aime autre chose qui déshonore le Seigneur. Et Dieu te dit, tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Tu peux te tromper toi-même, mais tu ne peux pas tromper le Seigneur. Mes amis, comment tenir ferme dans ces temps d'apostasie? Il faut servir le Seigneur par amour et non par intérêt. Il ne faut pas suivre le Seigneur pour ses bénédictions, mais pour lui-même. Amen. Pas seulement quand tout va mal, mais même être prêt à servir le Seigneur en toutes circonstances, qu'il ait la première place, qu'il soit le premier et le dernier dans notre vie. Alléluia.
Amen.
Si tu es ainsi, tu tiendras ferme dans les temps d'apostasie. Une deuxième leçon à apprendre, nous allons l'apprendre avec cette fois le nom de Gédéon lui-même. Savez-vous ce que son nom signifie? Gédéon veut dire couper, abattre, trancher. Gédéon veut dire cela. Et la deuxième leçon, donc, que nous allons retirer de la vie de Gédéon, c'est celle-ci. C'était un homme décidé à couper avec le mal. Il était décidé à couper, trancher. Amen. Voilà, c'est un point important. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Comme Gédéon, nous devons trancher. Il faut choisir son camp. Vous ne pouvez pas avoir un pied à gauche et un pied à droite avec le Seigneur. Un pied avec le monde, un pied avec le Seigneur. Vous serez malheureux avec le Seigneur et vous serez malheureux dans le monde. Et c'est la situation de beaucoup de chrétiens. Un pied dans le monde et un pied avec le Seigneur. Ils ne sont heureux ni avec le monde, ni avec le Seigneur. Deuxième leçon, un homme qui a décidé à couper avec le mal. Gédéon, tranché, coupé. Et qu'est-ce qu'il faut couper? Nous devons produire d'abord des fruits dignes de la repentance. Acte 26, 20. Voyez-vous, il y a la coupure avec sa vie passée. Des fruits dignes de la repentance. Seigneur, je veux couper définitivement avec ma vie passée. C'est tout simple ce que je vous dis. Mais il y a encore des chrétiens qui se disent chrétiens et qui gardent encore dans leur vie des passions d'avant leur conversion. N'est-ce pas vrai? Malheureusement. Vous dites, mais c'est pas possible, mais oui. Ils ont simplement cru, parce qu'aujourd'hui, on entend un évangile un peu à l'eau de rose. Croyez au Seigneur Jésus. Mais avant de croire, il faut se repentir. Avant de croire au pardon, il faut se repentir de son péché. pour que Dieu pardonne ton péché. Il faut que tu te repentes de ce péché et que tu l'abandonnes. C'est tout simple ce que je vous dis, n'est-ce pas vrai? Mais aujourd'hui, on prêche que le côté agréable, que le côté positif. On ne veut pas faire de la peine aux gens. Mais mes amis, en ne voulant pas faire de la peine aux gens, nous ne les aidons pas. Ces personnes sont malheureuses. Ils n'ont pas tranché comme Gédéon. Son nom veut dire couper, trancher. Produire d'abord des fruits dignes de la repentance. As-tu vraiment coupé avec ton passé? Ta vie passée? Si tu mentais, est-ce que tu as coupé avec le mensonge? Si tu commettais adultère, est-ce que tu as coupé avec cela? Si tu vivais dans le concubinage, est-ce que tu as coupé avec le concubinage? Aujourd'hui, c'est à la mode, même dans nos églises, que certains vivent dans le concubinage et prennent la Sainte Cène, et même prêchent l'Évangile. Qu'est-ce que c'est que cela? La Bible parle du concubinage comme de l'immoralité et de la fornication, mais on s'aime. La Bible n'appelle pas ça de l'amour. La Bible appelle cela de la fornication. C'est cela, il faut couper. C'est cela, Gédéon. Voilà pourquoi Dieu a pu l'utiliser. Nous devons trancher avec notre vie passée. Mais ce que je vous dis, c'est l'ABC de la vie chrétienne. Et tant que nous ne mettons pas ces vérités en pratique, nous ne pouvons pas vraiment nous épanouir. On est là, on demande toujours la prière, priez pour moi, pour que la force, que j'ai la force. Il n'y a pas de prière pour la force, pour avoir la force d'abandonner ceci et cela. Si tu veux abandonner, Dieu te donnera toujours la force de le faire. Amen. Mais tu ne dois pas jouer avec ton péché. Si tu ne tues pas le péché te détruira. C'est le péché qui te tuera. Amen. Et nous devons nous séparer de quoi aussi? Du mensonge, du concubinage, de l'adultère et aussi des fausses doctrines. Romains 16, 17 nous dit que nous devons nous éloigner de ceux qui prêchent des fausses doctrines. Nous éloigner. Il faut couper aussi. Il faut trancher. Il ne faut pas faire de sentiments. Sinon, on ne s'en sort pas. Amen. Et tue cette personne-là. Si tu es cette personne, Dieu t'aidera. Bien sûr, on ne fera pas partie de la majorité. Mais un homme avec Dieu, c'est la majorité. Amen. Alléluia. Un homme avec Dieu, c'est la majorité. Avez-vous remarqué combien, dans la Bible, une personne avec Dieu peut faire des choses extraordinaires? Dieu n'a pas attendu, n'a pas utilisé des multitudes, c'est toujours avec un petit nombre, un homme, un petit nombre. Et on le voit avec Gédéon, on va le voir tout à l'heure. Un petit nombre que Dieu a utilisé pour apporter la bénédiction. Deuxième leçon, un homme qui est décidé à couper avec le mal, le péché, sa vie passée, les fausses doctrines. Avez-vous fait cela? Avez-vous? Sinon, vous ne tiendrez pas ferme. Vous serez emporté dans l'apostasie. La séduction est tellement grande. Il n'y a que ceux qui ont pris position que Dieu gardera, protégera. Mais si tu n'as pas pris position, tu seras emporté. Une troisième leçon maintenant. C'était un homme qui était décidé à rester fidèle malgré les circonstances difficiles. Notez bien cette troisième leçon. Et nous voyons cela au verset 11. 6, 11, il est dit, Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir. Avez-vous remarqué ici, il y a une contradiction. Le froment, on ne le bat pas au pressoir. Le pressoir, c'est pour presser le vin. Le froment, c'est le blé. Et en Israël, à ce moment-là, le froment était battu dehors. On le battait comme ça, et puis ensuite, on le jetait en l'air pour que la balle s'en aille et que le blé tombe. Mais là, lui, comme Madian détruisait absolument tout ce qui appartenait à Israël, lui, malgré cette opposition, il a dit, il faut que je trouve une solution pour que, quand même, je batte le blé d'une manière ou d'une autre. Et il a trouvé un seul endroit caché, parce que le froment était battu en public. Et il a dit, il faut que je trouve un petit coin, mais au moins que je batte, je ne veux pas me laisser arrêter. Je ne veux pas que Madian, l'ennemi, vienne prendre ce qui m'appartient et ce qui appartient au peuple d'Israël. Donc il a décidé à être fidèle, malgré les
les oppositions et les circonstances difficiles. Et il est allé près du pressoir, et là, il a battu le froment. La troisième leçon est là, mes amis. C'était un homme qui a décidé à rester fidèle malgré les oppositions et malgré les persécutions. Êtes-vous prêt à faire cela? C'est ce qui a plu à Dieu, de voir un homme qui refusait la défaite, qui refusait qu'Israël soit dans l'esclavage. C'était un homme en réaction. Les réactions de Dieu dans la chrétienté captive. Un jour, un serviteur de Dieu a apporté des messages là-dessus. Les réactions de Dieu dans la chrétienté captive. Et Gédéon fait partie de cela. Nous devons faire partie de ces hommes, de ces femmes de Dieu qui réagissent dans la chrétienté captive. Et ceci est capital. Un homme décidé à être fidèle. Gédéon, il n'y a pas l'histoire. Toi, tu ne mourras pas. À Madian, tu n'auras pas mon blé. Tu interdis, tu détruis tout. Mais moi, je vais me cacher. Et je battrai le blé au pressoir. Mais tu ne mourras pas. C'était un homme, donc, qui n'a pas baissé les bras. Et qui n'a pas dit, oh, tout Israël est esclave. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Effectivement, il a dit qu'il ne pouvait pas faire grand-chose, mais il a quand même pris les bonnes décisions. Et nous aussi, nous ne devons pas justifier, mes amis, que la majorité est dans l'esclavage ou dans la désobéissance. Cela ne te justifie pas. Ce n'est pas parce que beaucoup de gens font le mal, beaucoup de chrétiens désobéissent à la parole de Dieu, que tu es justifié aussi en désobéissant à la parole de Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que, voilà, tout le monde fait cela. C'est pas parce que tout le monde fait cela que tu dois le faire. C'est là, justement, que Dieu attend des hommes et des femmes qui ne font pas ce que la majorité fait. Amen. C'est ce que Dieu attend maintenant. Et laisse-moi te dire, un homme avec Dieu, c'est la majorité. Amen. Je pense à Paul maintenant, que tout le monde poursuivait. On voulait le détruire. Et Paul, à un moment donné, était découragé. Et il est dit, je ne sais pas, mais il a une vision. Et il lui a dit, Paul, ne te décourage pas, le Seigneur lui a dit. Va prêcher à Jérusalem. Là-bas, personne ne mettra la main sur toi. Comme si Dieu voulait lui dire, sois fidèle. Personne ne mettra la main sur toi. Je te garderai. Malgré l'ennemi, malgré les oppositions, les persécutions, Dieu a gardé Paul et il lui a permis de finir sa tâche. Amen. Un jour, lorsque on était dans une école biblique en Angleterre, on a entendu une pensée merveilleuse qui était celle-ci. Vous êtes immortel tant que votre œuvre n'est pas achevée. Et j'ai gardé cette pensée merveilleuse. Mes amis, vous êtes immortel tant que votre œuvre n'est pas achevée. Personne ne peut mettre la main sur vous si vous êtes décidé à aller jusqu'au bout. Et si les gens mettent la main sur vous, c'est que Dieu, à un moment donné, l'a décidé. Mais personne ne peut le faire avant le temps. Amen. Ne crains pas l'homme. Tu es immortel. Tant que ton œuvre n'est pas achevée. Amen. Et Gédéon, c'était ainsi. Il a dit, il n'y a pas d'histoire. Même si la majorité s'oppose, je veux dire, ne veut pas marcher avec Dieu, moi, je marcherai avec mon Dieu. Es-tu dans cet esprit-là? Ah oui, mais tout le monde dans mon église. Ah oui, mais mes amis sont comme ça. J'ose pas aller à l'encontre de mes... À combien sont pris à cause de ça? Les mauvaises alliances. Écoutez-moi bien, mes amis. Mauvaises alliances. Parce qu'on a été on est ami avec quelqu'un. Quand tout allait bien, c'était bien. Mais ce quelqu'un, cet ami maintenant, a complètement dévié. Et vous, parce que vous l'aimez, c'est votre ami, vous n'osez pas couper. Et vous n'osez pas lui dire la vérité, c'est votre ami. Parce que vous savez que si lui dites la vérité, il va se fâcher et ce sera la séparation. Et beaucoup n'osent pas payer le prix là. Et c'est là que Dieu vous attend, mes amis. Alléluia. C'est là qu'il faut être prêt à couper quand il le faut. Amen. Et Dieu vous donnera, lui, les bonnes personnes pour vous soutenir. Jamais il ne vous abandonnera. Mais si tu fais de fausses alliances, si tu as des amis comme amis des personnes qui ne marchent pas dans la vérité de la parole de Dieu, tôt ou tard, tu seras toi-même perverti. Si vous mettez un fruit pourri avec des fruits qui sont sains, est-ce que le fruit saint va faire que la pomme pourrie ne soit plus pourrie? Non. La seule chose à faire, c'est de sortir la pomme pourrie, ou alors de sortir les bonnes pommes. Mais c'est le pourri qui prendra le dessus. C'est le pourri qui contaminera. Tu ne peux pas jouer avec le mal, avec le péché, avec les fausses doctrines. Tu ne peux pas. Tu dois être fidèle. Battre le froment au pressoir, c'est une contradiction. Mais c'est l'esprit de quelqu'un qui veut rester fidèle envers et contre tout. Amen. Une quatrième leçon. C'était un homme totalement honnête. Honnête. Gédéon nous apprend qu'il faut être honnête devant Dieu. Il a posé la question, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Voyez-vous, il faut être sincère, il faut être honnête devant Dieu. Poser des bonnes questions. Pourquoi est-ce que je suis dans cette situation? Pourquoi est-ce que je suis dans tel état? Pourquoi est-ce que l'Église est dans un tel état? La réponse est toute simple, mes amis. Parce qu'on s'est éloigné du Seigneur et de sa parole. Mais beaucoup ne veulent pas se poser cette question. Es-tu honnête avec Dieu? Es-tu droit avec Dieu? Ne dis pas, oui, mais c'est merveilleux, Dieu nous bénit et tout. Non, 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 pose les bonnes questions. Pourquoi est-ce que nous sommes dans cette situation? Parce qu'on a mis la parole de Dieu de côté. Et tant qu'on a mis Dieu de côté, mes amis, tout succès, quel qu'il soit, est une faillite aux yeux de Dieu. C'est ce succès sans Dieu qui te conduira à la perdition. Sois honnête. Pose les bonnes questions. Pourquoi est-ce que nous sommes dans cet état-là? C'est parce qu'on s'est éloigné du Seigneur et de sa parole. Reviens. Reviens à lui. Il n'y a pas d'autre solution. Tous les prophètes qui parlaient à Israël, c'était ça, revenez. L'Éternel vous a délivré de la main de l'Égypte, du Pharaon. Revenez, vous lui appartenez. Obéissez, marchez sous son regard, obéissez à sa voix. C'était tout simplement ça, l'obéissance. Dieu ne regarde pas à nos larmes, à nos prières, à notre argent, à notre foule, à la multitude de choses que nous faisons, à l'argent que nous donnons. Dieu regarde à l'obéissance. Ni tes prières, ni ton argent, ni le nombre, ni le succès n'influence Dieu. Ça influence les hommes, mais ça n'influence pas Dieu. Ce qui influence Dieu, c'est ton obéissance. Obéis à la parole de Dieu. Sois honnête. Aie le courage de faire face à la vérité. N'applique pas la politique de l'autruche. Tout va très bien. On vit un merveilleux réveil. Mais c'est merveilleux. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un prophète de malheur. Voyez-vous, on ne veut pas faire face à la réalité. Mais ce que tu vis n'est pas dans la parole. Jésus et les apôtres n'ont jamais fait ça. Amen, Seigneur, c'est le Seigneur. Regardez, on n'est pas honnête, on n'est pas droit. Vous savez, il y a une grande différence entre avoir soif du surnaturel et avoir soif de Dieu. C'est deux choses différentes. Dans le Nouvel Âge, on a soif du surnaturel, mais n'ont pas soif de Dieu véritablement. Et au milieu de nous, nous pouvons avoir une soif du surnaturel qui est malsaine. Malsain. C'est la soif de Dieu que nous devons avoir, de sa personne, la communion avec lui, la réconciliation avec lui, marcher sous son regard, dans l'obéissance. C'est cela le chemin de la vérité. Cinquième leçon, nous devons, il est dit, il est important de ne pas se décourager. Gédéon était découragé et commençait à douter parce qu'il avait les yeux fixés sur lui-même ou sur les circonstances et non sur Dieu. Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Ici aussi la leçon est là, il est important de ne pas se décourager. Et pourquoi on se décourage comme Gédéon? Parce qu'on regarde soi-même, je suis le plus petit, ma famille est la plus pauvre, moi je n'ai rien du tout, ou alors les circonstances. Israël est dans tel état, dans un tel état qu'il n'y a plus d'espoir. Ne te décourage pas. C'est parce que tu regardes à toi-même autour de toi, mais regarde au Seigneur. Amen. Regarde à lui. Pourquoi est-ce que tu es découragé? Quelle que soit ta situation, c'est parce que tu regardes ou à toi ou autour de toi. Mais regarde au Seigneur et tout changera. Même si tu devais marcher seul,
Amen.
Sois prêt à marcher seul.
Amen.
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 Sois prêt. Ne te laisse pas décourager. Va de l'avant. Le bon berger ne t'abandonnera jamais. Le bon berger est là. Il n'abandonne jamais sa brebis qui veut rester fidèle. Il te tiendra, il te soutiendra. Reste bien près de lui et tu verras combien il est fidèle, combien il est bon. Ne te décourage pas, ne regarde pas autour de toi. Veille surtout à ta communion avec le Sauveur. Sois attaché à lui et attaché à sa parole. Et personne ne pourra te faire tomber. C'est quand on s'appuie sur l'homme qu'on fait tomber l'homme et qu'on tombe avec l'homme. Et combien de chrétiens se sont appuyés sur tel ou tel serviteur de Dieu? Le serviteur de Dieu est tombé, ils sont tombés avec. Et après ils se plaignent. « Ah Seigneur, pourquoi ceci? Pourquoi cela? Je comprends rien Seigneur !» Comment tu ne comprends pas? C'est parce que tu regardes à l'homme. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Mais bienheureux est l'homme qui se confie dans l'Éternel. Amen. Ne te laisse pas décourager. Ne regarde pas autour de toi. Quelle que soit ta circonstance, lève les yeux. Lève les yeux. Regarde au Seigneur. Il y en a un qui ne t'abandonnera pas. Attache-toi à sa parole. Attache-toi. Sois fidèle. Serre cette parole sur ton cœur afin de ne pas pécher contre Dieu. Et tu verras que le Seigneur sera avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Tes meilleurs amis t'abandonneront. Combien de nos amis nous ont abandonnés? De nos meilleurs amis. Mais le Seigneur en donne toujours d'autres. Mais le plus important, c'est que le Seigneur, lui, ne nous abandonne jamais. Tes meilleurs amis t'abandonneront. Et ça fera mal. Tes meilleurs amis deviendront peut-être même des Judas. Ils se dresseront contre toi. Tu leur as fait du bien. Tu les as aidés. Tu les as bénis. Tu as prié pour eux. Dieu a exaucé les prières. Et ceux-là même se tournent contre toi. C'est dur, n'est-ce pas? Mais pardonne et va de l'avant. Va de l'avant. Que rien ne t'arrête. Attache-toi au Seigneur. Lui ne te décevra jamais. Il est l'ami fidèle qui n'a jamais abandonné sa brebis. Sache, il est l'ami. Quand tout le monde t'abandonnera, lui sera toujours là. Reviens, reviens à ton Sauveur. Quand tout le monde te laissera, lui ne t'abandonnera jamais. Quelle consolation! Ne te décourage pas. Relève la tête. Le Seigneur est là. Relève la tête et va de l'avant. Serre ta main faible dans sa forte main et va de l'avant. Sixième leçon, prends le temps d'adorer l'autre Dieu, d'adorer ton Dieu. Nous voyons que Gédéon offrit un sacrifice à l'Éternel. Il vit son indignité lorsqu'il se trouva face à face avec l'ange de l'Éternel. Il y a eu quelque chose qui s'est passé avec Gédéon à ce moment-là. Alors qu'il offrait ce sacrifice, ça représentait bien sûr son être entier à Dieu. Et là, Dieu s'est révélé face à face. Et il a dit, malheur à moi, j'ai vu l'Éternel face à face. Nous avons besoin d'avoir de telles visions du Seigneur. Amen. Qu'on réalise que nous ne sommes rien. Et c'est alors que nous pouvons vraiment avoir la crainte de Dieu. Venir dans sa présence. Expérimenter sa grandeur, sa majesté. Et c'est dans cette adoration, dans ce don de nous-mêmes au Seigneur. Car adorer, c'est donner. Adorer, c'est se donner. Et adorer, c'est s'abandonner à ce Dieu si merveilleux. Prends le temps d'adorer. C'est là que tu rencontreras Dieu. C'est là que la crainte de Dieu entrera dans ton cœur. Et que toute crainte de l'homme disparaîtra. C'est la crainte de Dieu qui chasse la crainte de l'homme. Si tu crains Dieu, tu ne craindras plus jamais aucun homme. Et cela, il faut que tu passes du temps à adorer Dieu. Comme Gédéon adore. Que tu aies une communion face à face avec ton Sauveur. Que rien ne vienne se placer entre Dieu et toi. Sois transparent. Offre ton corps en sacrifice. Ce qui sera de ta part un culte raisonnable. Donne-toi, pas seul, ne donne pas seulement tes péchés, mais donne ta vie aussi. Donne ta volonté et dis-lui, me voici Seigneur, mon corps t'appartient, mes yeux, mes mains, mes oreilles, ma bouche. Désormais, tout est pour ta gloire, non plus pour le péché, c'est fini. Mon corps maintenant est sanctifié, mes yeux sont pour toi, mes mains, mon oreille, ma bouche, tout est sanctifié pour toi. Tu expérimenteras la présence de Dieu et cela te suffira. Amen. Et tu tiendras bon. Tu tiendras ferme. Gloire au Seigneur. Septième leçon. Ne regardons pas au nombre. Ne regarde pas au nombre. On voit cette leçon avec Gédéon, n'est-ce pas? L'armée de Gédéon est comptée combien de personnes d'abord? 32 000. Et l'Éternel a dit, oulala, ils sont trop nombreux. Trop nombreux parce qu'ils en tireraient la gloire pour eux-mêmes. Et il a fait un triage. Il en est resté 22 000. Et Dieu a dit non, 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 22 000, il y en a encore trop. Tous ceux qui craignent, tous ceux qui ont peur, eh bien, mets-les de côté. Et finalement, ils se sont trouvés combien? 300. Et c'était au bord de la rivière. Et vous savez comment le triage s'est fait? Les 22 000 étaient là au bord de la rivière. Et il y en a 300 qui ont bu différemment. Tous les autres, là, les 22 000, ils étaient là. Quand ils sont allés au bord de l'eau, ils ont mis les deux mains comme ça. Et puis, sans s'occuper de quoi que ce soit, si l'ennemi arrivait derrière, il plongeait directement. Coulait. Il coulait tout de suite. Mais les 300, c'était différent. Ils ont bu comme ça, en regardant l'ennemi. Si l'ennemi arrivait. Dieu a dit, c'est cela que je veux. C'est ces 300-là. Ces 300-là qui ne cherchaient pas à satisfaire tout simplement leur désir, mais des hommes et des femmes qui étaient prêts à combattre pour l'Éternel.
Amen.
À combattre l'ennemi. Il a dit, si vous venez là, attention, nous on boit ici, mais notre cœur est pour l'Éternel. Notre cœur est avec lui. Nous buvons, mais notre cœur est avec le Seigneur. Les autres, tous les ennemis pouvaient venir, et puis un seul coup là, il n'y avait même pas besoin de les pousser d'abord. Le fait de voir l'ennemi, c'est terminé. Les 300, ne regardez pas au nombre avec 300 personnes, mais décidez. Dieu peut faire beaucoup. Amen. 300, mais décidez. À rechercher la gloire de Dieu, l'honneur de Dieu, la volonté de Dieu. Voilà les hommes et les femmes que Dieu cherche aujourd'hui. Amen. Et Dieu, huitième leçon, j'arrive au bout, j'arrive. Vous allez dire, j'ai combien de leçons là? J'arrive au bout, vous voyez, parce que Dieu saura nous encourager au bon moment. J'ai mis cela parce que c'est un point important. 7:11. Dieu saura nous encourager au bon moment. Vous savez, à un moment donné, Gédéon avait des craintes un petit peu. Et là, l'Éternel a permis qu'il aille au camp des Madianites là-bas. Et puis là, il a entendu quelque chose. Il a entendu que certains de Madian ici, l'un disait à l'autre, « Dis donc, j'ai eu un rêve comme un rêve, tout ça. J'ai vu qu'un gâteau, là... Oui, il eut un songe. Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Et il l'a retourné sans dessus-dessous. Elle a été renversée. Son camarade répondit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas. Homme d'Israël, Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Et puis alors, c'est là que... Alors, un peu plus haut, il est dit, tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Et c'est là que Gédéon a été encouragé en entendant la vision de l'ennemi. Et la leçon est là. Au bon moment, Dieu nous encouragera toujours. C'est là la main du bon berger. Au bon moment, il y aura toujours quelque chose qui se passera. Dieu ne vous abandonne jamais. Au bon moment, il interviendra. Par l'un, par l'autre. Il a mille façons d'intervenir. Il ne permettra pas que tu sois complètement anéanti. Dieu veille sur toi. Et il y aura une intervention d'une manière ou d'une autre. Amen. Il t'encouragera. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu utilise des vases brisés maintenant. Neuvièmement, il fallait que les vases qu'ils avaient, avec le flambeau à l'intérieur, il fallait que ces vases soient brisés pour que la lumière brille. Dieu utilise des hommes et des femmes brisés. Donc des hommes et des femmes qui ne recherchent qu'une chose, la gloire de Dieu. Rien pour nous. Faisons toujours cette prière, rien pour moi, mais tout pour toi, Seigneur. Et toutes nos épreuves, toutes nos difficultés, tous nos combats, toutes nos tribulations ont un but, briser cet orgueil de l'homme, cette propre suffisance de l'homme qui veut dire, c'est moi qui ai fait ça, c'est le bras de la chair qui a fait cela, et Dieu ne veut pas faire cela. Avez-vous remarqué combien d'hommes, de Dieu, même de mouvements, ils se vantent de leur grand nombre, ils se vantent des grandes choses qu'ils font, comme si c'était eux qui avaient fait les choses. Dieu déteste cela. Nous devons toujours glorifier Dieu, être brisés et réaliser que toute la gloire doit être à notre Dieu. Amen. Et je termine maintenant un autre point important, la dixième leçon. Gédéon est tombé dans un piège très grave. Il est tombé dans un piège. Et quel est ce piège ? On le voit au chapitre 8, verset 27. Il se fit un éphod qui était seulement et exclusivement destiné au sacrificateur pour consulter l'Éternel. Et il fut un piège pour tout Israël, pour lui-même et pour toute sa famille. Il se fit un éphod. L'éphod était un vêtement que les sacrificateurs portaient pour consulter l'Éternel, quand il y avait lieu de consulter l'Éternel. Et Gédéon, vous savez, comme il a eu de grandes victoires, voyez-vous ce que c'est, le succès, quand ça nous monte à la tête. À un moment donné, on se croit presque un favori de Dieu. On croit qu'on fait partie de l'élite et on peut se permettre n'importe quoi. Et il a cru qu'il pouvait faire le travail des sacrificateurs. Et c'est seulement le sacrificateur qui devait porter les fautes, n'est-ce pas vrai ? Mais lui, dans la bénédiction, dans l'euphorie de ses bénédictions, il a pris les fautes qui n'appartenaient qu'au sacrificateur. Autrement dit, il a désobéi à la parole de Dieu. Voilà le piège dans lequel il est tombé. Et c'est à cause de la bénédiction. Pour beaucoup, le péché est un piège. Mais pour Gédéon, le piège était la bénédiction. Attention, il y en a qui tombent dans un piège à cause du péché. Mais il y en a d'autres qui tombent dans le piège à cause de la bénédiction. Dans la bénédiction, ils ne savent pas donner gloire à Dieu. Dans la bénédiction, ils commencent à faire des choses qui déshonorent Dieu. Puisque Dieu me bénit, je peux faire ceci, je peux faire cela. Puisque Dieu me bénit, je peux avoir les yeux un peu ailleurs, de temps en temps, pour me défouler un petit peu. Dieu me bénit, je peux me permettre ça. Dans la bénédiction, David, dans la bénédiction, veillant bien. Et beaucoup de serviteurs de Dieu, je l'ai même entendu, ils pensent que parce que Dieu est avec eux, Dieu leur permet certaines faveurs, même dans le domaine sexuel, en dehors de leurs épouses. Mes amis, ce sont des choses extrêmement graves, n'est-ce pas vrai ? C'est pas parce que Dieu te bénit qu'il te permet de faire ce que tu veux et de désobéir à la parole. Pensant parce que tu es béni, eh bien tu peux faire ce que tu veux, détrompe-toi. Il a été un piège pour lui-même, pour sa maison et pour tout Israël. Le couperet est tombé. Mes amis, veillons. Dieu est un Dieu saint. Sa parole est la vérité. Serrons-la sur notre cœur. Ne jouons pas avec Dieu, ne jouons pas avec le péché, et ne pensons pas parce que nous sommes bénis qu'on peut faire n'importe quoi. Ah oui, mais moi, Dieu est avec moi. Dieu est avec toi si tu marches avec lui. Si tu marches avec sa parole, Dieu est avec toi. Mais si tu mets sa parole derrière ton dos, il t'abandonnera aussi. Crains Dieu, marche avec Dieu, mets sa parole devant tes yeux. Obéis, ne tombe pas dans ce piège de la bénédiction qui te fait croire que tu es quelqu'un de spécial. Pour te permettre de désobéir à Dieu, attention, que toutes ces leçons nous servent. Amen.